بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bien, nous allons nous occuper aujourd'hui pour cette partie du cours de ce qui a trait à l'art et à la culture, avec un sujet qui est effectivement un sujet particulièrement sensible dans notre communauté, parce que beaucoup de choses sont dites, mais également beaucoup de choses sont tues, beaucoup de choses sont sous-entendues, beaucoup de choses sont rapportées sur la question de l'art et de la culture en islam, avec la formule usuelle: est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Alors, je vais vous proposer, pour commencer la réflexion, simplement un panorama des positions juridiques connues. Mais je ne ferai pas aujourd'hui, et ce n'est pas le but de ce cours, je ne ferai pas d'approche qui soit d'approche de fiqh proprement dit, au sens où toutes les positions vont être étudiées avec leur source juridique, l'adilla shar'iyya, c'est-à-dire les références. Ceux qui parmi vous sont intéressés par effectivement connaître l'opinion des savants et puis les sources sur lesquelles ils s'appuient respectivement pour donner leur opinion pourront se référer à l'ouvrage « Être un musulman européen » qui, inshallah, verra sa traduction française être publiée ces toutes prochaines semaines. Je pense que dans les 3 semaines à la mi-juin, donc 1999, vous aurez le texte en question. Et là, vous allez avoir tout un chapitre sur art et islam et les positions respectives des différents savants. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas le lieu. Par contre, ce que nous pouvons mettre en évidence comme cadre général, c'est que les savants ont respectivement développé 3 positions sur la question de la culture islamique au sens des arts islamiques ou des arts d'un point de vue général. Et là, effectivement, je pense tout à la fois à la musique, théâtre, cinéma et à la photographie. Vous avez une première position de savants qui disent, sur une interprétation particulière d'un certain nombre de hadiths du prophète alayhi salam et de certains versets, que la musique est donc c'est soit les mêmes soit d'autres disent, mais on a une position qui va dans ce sens là la musique, la photographie ou le cinéma ou le théâtre ou le chant d'un point de vue général sont interdits. Vous avez des savants musulmans qui s'appuient sur des sources et qu'il les interprète au sens de l'interdiction de ces différents arts. Ça existe. Et ceux-ci ont des positions d'interprétation qui sont des positions qui sont à respecter en tant que musulman, à partir du moment où vous avez des savants de référence qui peuvent, c'est peut-être par exemple le cas, vous connaissez, ce sont des noms que vous avez entendus, et Nawawi par exemple, sur la question de la photographie et d'autres, sur d'autres situations, sur d'autres plans de l'art, ont des positions qui sont des positions d'interdiction. La photographie au sens du dessin tout à l'heure, pour An-Nawawi. Vous avez d'autres savants maintenant qui, s'appuyant sur une autre interprétation des mêmes versets ou sur d'autres versets, ou sur d'autres hadiths du prophète alayhi salam, eh bien, sont d'avis que le chant, que la musique, que la photographie, que le cinéma ou le théâtre sont permis, mais avec des conditions. Sans entrer dans les détails, les conditions qu'ils mettent en évidence peuvent être synthétisées de la façon qui suit. La première, c'est que ces arts ne doivent pas nous distraire ou nous éloigner ou perturber le lien que nous avons et que nous devons préserver avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu. Première condition. La deuxième des conditions, c'est que ces arts, respectivement, ne doivent pas entraîner ou porter ou traduire des comportements ou des attitudes ou des choses qui seraient en contradiction avec l'éthique, donc la morale islamique, en ce qu'ils sont et en ce qu'ils pourraient provoquer. Deux conditions. Donc vous allez avoir fondamentalement deux attitudes qui existent islamiquement. Et là, de ce point de vue-là, vraiment, vous pourrez vous référer au texte écrit pour avoir les choses dans les détails. Donc deux positions de principe qui existent parmi les savants. Une position d'interdiction, respectivement chez certains savants sur un cas donné, ou d'autorisation avec des conditions chez d'autres. C'est par exemple le cas célèbre de Ibn Hazm, rahimahullah, sur la question de la musique, par exemple. Bien. Nous avons donc ces positions-là. Ensuite, vous avez une troisième voie, qui est une voie de savants qui, entre ces deux éléments-là, vont parfois admettre des choses, mais avec des conditions qui sont plus restrictives que ce que j'ai pu mettre en évidence. C'est par exemple pour le cas de la musique, ceux qui disent oui au chant, mais sans instrument, par exemple, ou oui au chant, mais uniquement avec des instruments à percussion, et c'est une analyse d'un certain nombre de traditions. Bien, une fois que nous avons dit cela, nous avons mis en évidence le fait qu'il y a, parmi les musulmans et parmi les références musulmanes, des autorités, historiquement, dès le 8e siècle, sur la base effectivement de ceux qui ont codifié cela depuis le 8e siècle, jusqu'à aujourd'hui, des opinions qui sont divergentes. En face de la divergence, quelle est notre attitude? Notre attitude, elle doit être claire. C'est-à-dire qu'un frère ou une sœur qui décide que la musique est quelque chose qui est interdit pour elle, ne veut pas écouter de la musique, ne veut pas regarder de films, ne veut pas faire de photos et refuse qu'on la prenne en photo, nous allons respecter cette opinion parce qu'elle est islamiquement fondée. Et jamais ne doit sortir de notre bouche l'idée dans l'air du temps « Ah, c'est une extrémiste, c'est ci ou c'est cela. » C'est une musulmane et un musulman, on respecte son opinion. Il n'y a pas plus extrémiste, ou même chez certains musulmans ou musulmanes, intégriste, parce que c'est le terme à la mode, c'est pas ce que ça veut dire, mais c'est bien de le dire. D'un autre côté, pour les autres, il ne s'agira pas de dire, de ceux qui vont écouter de la musique en respectant des conditions, qu'ils sont moins musulmans, ou qu'ils sont musulmans light ou soft, comme certains le disent, ajoutant bien entendu à l'américanisation de la formule la moquerie dont on disait tout à l'heure qu'effectivement il faut l'éviter. En d'autres termes, nous ne dirons pas des uns qu'ils sont plus extrémistes et nous ne dirons pas des autres qu'ils sont moins musulmans. C'est l'attitude qu'on doit avoir de le respect. C'est islamique, je te respecte. C'est islamique, je te respecte. Que ceux qui font le choix d'une attitude ne disent pas des autres les mots qui pourraient les blesser. Ça, c'est quand même une dimension de principe. Et puis, il y a une autre chose. Je respecte ton choix, mon frère. Je respecte ton choix, ma sœur. Mais tu dois respecter le mien aussi. On se respecte mutuellement. Et le but est celui-ci. C'est pas « je te respecte et toi tu veux m'imposer ta position en laissant entendre que je suis pas tout à fait musulman parce que je pourrais écouter de la musique même si je respecte des conditions. » On se respecte dans le jugement, on se respecte dans le choix. Et c'est pas pareil, vous m'avez bien entendu. On se respecte dans le jugement, c'est que je n'établis pas de jugement sur toi, mais on se respecte dans le choix, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux à partir du moment où tu considères et que tu as la possibilité, bien entendu, de pouvoir fonder ça comme musulman et tu n'entendras pas de critique de ma part là-dessus. Donc tu es libre de faire ton choix, je le respecte. Si tu respectes les limites, c'est un choix islamique. Si tu ne les respectes pas, alors ça c'est autre chose, ça te regarde. Mais à partir du moment où on est dans un cadre islamique, on se respecte mutuellement dans son choix et en évitant le jugement. J'aimerais bien que vous entendiez ça très fort et très profondément. C'est-à-dire d'éviter de dire de vos frères et de vos sœurs qui ne feraient pas le même choix strict que vous, t'es pas tellement musulman, toi. Mais aussi d'éviter, quand on a fait le choix d'écouter de la musique ou même d'aller assister à une pièce de théâtre, qu'on ne dise pas à ceux qui n'y vont pas, mais ce sont tous des extrémistes. Faites attention aux mots que vous employez dans cette communauté. À partir du moment où on a compris cela, trois positions majeures sur les questions de l'art, encore une fois, les positions des savants par rapport à une matière ou l'autre changent, je ne veux pas entrer dans les détails. Une fois qu'on a mis le cadre, il y a une chose qui est très importante dans l'établissement des sciences islamiques et qui fait partie de la méthodologie du fiqh, du droit et de la jurisprudence musulmane. C'est de regarder la réalité en face. Regardez ce qui se passe. Regardez ce que nous vivons. Le fiqh, le droit, la pensée du droit, l'application du droit, la réforme par le droit, l'orientation du droit, l'enracinement du droit, passe par une réflexion sur la réalité. Il faut faire l'état des lieux. Et l'état des lieux, on va le faire ensemble. Et on va le faire non pas pour une telle partie du désert ou une telle partie d'un village dans la montagne, on va le faire pour la Belgique et on va le faire pour l'Europe. N'est-ce pas? Et on va regarder les choses en face. Et on va s'apercevoir d'une chose qui est importante aujourd'hui en Europe. Parce qu'il faut que nous soyons, vous souvenez ce que j'ai pu vous répéter, il faut être mûr et regarder les choses en face pour trouver des solutions. Eh bien, nous allons observer aujourd'hui que les sociétés européennes sont des sociétés industrialisées, des sociétés qui sont des sociétés développées et qui ont, en plus de leur développement économique, développé un certain type de rapport à la culture. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés qui ont développé une chose qui est particulière, qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques décennies et qu'on ne connaît pas dans beaucoup de pays du Sud. C'est la production du temps libre. Le fait que aujourd'hui, dans la vie de chacun, et même si ce n'est pas, il ne faut pas généraliser, il y en a parmi vous qui travaillent très dur de très tôt le matin jusqu'à tard le soir, mais c'est une société qui a produit beaucoup plus que dans toutes les autres sociétés traditionnelles un temps libre conséquent. La fin de la journée, le week-end, les vacances, c'est une société qui a placé le travail dans un certain ordre et une certaine codification, mais qui a produit du temps libre. Et quand on dit production ou dégagement de temps libre, on dit forcément la gestion du temps libre. Et l'art et la culture apparaissent exactement dans cette dimension de la gestion du temps libre, sauf si c'est votre métier, mais c'est donc dans la gestion du temps libre. Donc, nous sommes déjà dans une situation qui est totalement différente que quand on vit dans une vie d'agriculture comme des paysans ou quand on vit dans une société qui demande un engagement total de soi pour son travail. Nous sommes aujourd'hui, vous, à partir de l'école, le temps libre au niveau scolaire, le temps libre au niveau universitaire ou le temps libre au niveau du travail est un temps libre extrêmement important, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes une société qui va produire. En même temps qu'elle dégage du temps libre, elle va produire un mode de gestion de ce temps libre par l'art, la culture, en un terme générique, le divertissement. C'est une société qui va placer, penser, orienter le sens d'un divertissement par la culture et l'art, et vous le savez. Allons plus loin dans ce constat. Quels sont les modes de gestion du temps libre qui sont aujourd'hui les majoritairement partagées par les hommes et les femmes dans les sociétés européennes, et donc par les musulmanes et par les musulmans. Le premier élément, je vais commencer en faisant semblant de penser que nous sommes tous et que nous menons tous une vie très saine, c'est le sport. La gestion du temps libre par le sport, on n'est pas, nous autres les musulmans, au top de cette gestion. On serait plutôt de nature à regarder le sport qu'à le faire, mais enfin toujours est-il que le sport est une des données importantes de la gestion du temps libre, n'est-ce pas ? Le sport. Avec toutes les dérives du sport qui pourraient être sains, avec tout ce qui est effectivement devenu regarder, comment le temps libre a produit quelque chose qui est devenu une véritable entreprise qui est liée à une production financière. Même le temps libre produit de l'argent dans sa gestion. Donc, effectivement, c'est inséré dans une dynamique sociale fondée sur la capitalisation économique. Bien. La télé, le sport. Le deuxième élément qui intervient dans notre temps libre et qui est celui qui est le plus enraciné, le plus communément partagé, c'est vrai au nord comme c'est vrai au sud, c'est celui que vous connaissez tous, c'est la télévision. La télévision a pris une place énorme dans la gestion du temps libre. Si vous lisez les chiffres qui sont articulés sur le nombre d'heures que des jeunes et des moins jeunes, les jeunes adolescents, quand on a fait le compte, je crois, entre 10 et 16 ans aux États-Unis ou dans certaines villes des États-Unis, ça va, c'est une moyenne d'écoute de la télévision par jour qui peut aller entre 4 et 7 heures. Ça veut dire plus que le temps qu'ils passent à l'école. Avec une chose qui est intéressante, c'est que le pourcentage d'influence de cette télévision sur les esprits est trois fois supérieur en un certain nombre de domaines que peut l'être l'école, qui semble influencer les comportements sur 8%. La télévision. Vous connaissez la télévision. Et donc la télévision, ça prend un temps, et nous avons en Europe, cela j'ai pris l'exemple le plus extrême, des situations qui ne sont pas loin de 2 à 3 heures par jour de télévision. Dès que vous avez fait un film, c'est 1h30 à 2h, vous y ajoutez tout ce qui est autour du film et on passe très rapidement de 2 à 3 heures par jour. Et vous avez peut-être remarqué, ce ne sont pas les 3 heures de votre journée où vous avez fait une élévation intellectuelle surprenante. Donc c'est un instrument d'édification virtuelle qui est un instrument d'abrutissement potentiel. C'est la réalité. Troisième élément qui participe de notre gestion du temps libre, la musique. Considérée aujourd'hui comme le langage universel, impossible pour ainsi dire de ne pas faire face à la présence de la musique dans la vie d'un adolescent à partir de l'âge de 12 à 13 ans et ce jusqu'à 20 à 25 ans. La musique est partout, la musique accompagne la vie, la musique, à moins de vouloir faire le sourd, vous allez l'entendre. Et c'est un des langages. Quand vous dites que c'est le langage des adolescents, vous dites qu'il a pris une place très importante dans la vie quotidienne des jeunes, comme il a pris parfois de l'importance dans la vôtre. La musique est un langage en soi et qui a pris dans nos sociétés industrialisées une place conséquente. Il accompagne aujourd'hui même jusqu'à des gestions et des approches de relations publiques ou des stratégies de vente. Vous savez par exemple que la musique des grands magasins n'est pas une musique hasardeuse. Une musique travaillée, c'est une musique qui accompagne votre cheminement à l'achat. Une musique de consommateur. Cinquième Quatrième élément qui prend une place très très importante aujourd'hui, c'est le film, le cinéma. Le cinéma prend une place dans la vie quotidienne très importante. Alors certains d'entre vous n'y vont pas, rarement. C'est une réalité de la communauté et des communautés musulmanes en Europe. Le cinéma prend une place conséquente. Et le cinéma, j'étais récemment à Barcelone où nous avons eu un sociologue américain qui est venu nous dire des choses absolument sidérantes sur le cinéma aujourd'hui. On ne confondra pas tout, on ne confondra pas le cinéma avec ses excès, mais on essaiera de réfléchir à ses excès pour savoir quelle vigilance nous devons avoir par rapport à l'art lui-même. Et ces excès sont très troublants. Le sociologue américain était venu et nous a raconté comment les choses s'étaient passées pour un film qu'aucun musulman n'a vu mais dont tout le monde connaît l'histoire, d'un bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Le Titanic. Le Titanic a produit en milliards de dollars des sommes, je ne veux pas articuler de chiffres parce que je n'ai pas la mémoire du chiffre que lui-même a articulé, mais incroyable. Des sommes et des milliards de dollars incroyables. Mais une chose qui est très, très, très troublante, c'est que ce film qui a été, et lui, il nous disait la chose suivante, il dit, le cinéma n'est plus un art, c'est une industrie. Vous voyez bien la différence? Une industrie qui est une véritable production, une machine qui produit énormément de finances, d'économies, et qui est une économie à elle toute seule. On sait aujourd'hui que le nombre de lecteurs diminue de 3% par année. C'est plus tellement, la gestion du temps libre commence à diminuer. Peu, de moins en moins de gens prennent sur leur temps libre le temps pour lire. C'est comme si la lecture était encore partie d'un certain type de travail. Ce n'est pas tout à fait un divertissement, puisque les divertissements aujourd'hui, il faut qu'ils soient légers quand même. Lire, c'est un peu lourd. Sauf un certain type de lecture. Ce quatrième élément qu'on aurait aimé être un élément du temps libre, qui est la lecture, est énormément influencé par cet autre art qu'est le cinéma. Et il nous donne un exemple extrêmement surprenant. Celui qui accompagne justement la sortie du Titanic aux États-Unis. Et il nous dit un chiffre absolument incroyable, saisissant, pour la population du pays le plus industrialisé au monde et le plus développé. Celui qui est censé être le phare d'une société de progrès. À la suite du film Le Titanic, les 7 livres qui vont être lus par la population américaine et le plus vendu aux États-Unis parmi les 10 premiers livres, les 7 livres parmi les 10 livres qui seront le plus vendus dans l'année sont liés à l'histoire du Titanic. Parce qu'il fallait savoir exactement quel était le métrage qui séparait elle de lui au moment où il se quitte tragiquement, bien sûr. Parce qu'il fallait connaître l'histoire du bateau quand il a été... Non, mais vous vous rendez compte? Un film fait l'intelligence et la lecture. Mais c'est dramatique. C'est dramatique, mais c'est la réalité dans laquelle vous-même vous vivez aussi, bien sûr. Vous voulez un autre exemple? Il est très récent. Vous venez d'entendre parler d'un des films qui va sortir et qui a déjà, par les produits adjuvants, produit la recette de sa réalisation. C'est « La guerre des étoiles ». Il y en a eu une, il y en a eu deux, il y en a eu trois, il va y en avoir une quatrième. Le film, à lui tout seul, a produit avec ce qu'on appelle les produits qui l'accompagnent. Tout ce qui va être dans les magasins de jouets, dans les divertissements, ce qu'on va acheter à ses enfants, a produit par ces éléments-là, qui sont une véritable industrie du produit, la somme en marge bénéficiaire qu'a coûté le film. Tout le reste, ça va être du bénéfice. La production de cette industrie du cinéma va équivaloir dans l'année qui va suivre le film au produit intérieur brut de la Mauritanie. Rendez compte, un film aux États-Unis. On attendait lors du premier jour de sa sortie, dès le premier jour de sa sortie et pour la semaine qui allait suivre, jusqu'à 80 millions de spectateurs américains. Et puis c'est pas fini, parce qu'il va y avoir les Belges. Pas de musulmans, bien sûr, parce qu'ils ont la conscience élevée. La réalité, c'est celle-ci. Et vient en dernier élément de notre temps libre ce qui concerne le divertissement des soirées, des sorties, qui est lié à cette culture de la danse et du divertissement de la soirée. Et j'aimerais bien que vous gardiez ceci en mémoire parce qu'on va parler de la soirée. Je pense qu'en tant que musulmans, nous n'avons pas suffisamment réfléchi à ce que veut dire une soirée divertissante en Europe. On le sait, même certains d'entre vous, pour leur plus grande négligence, s'y rendent et s'y prêtent. La soirée, qui est cette soirée de divertissement et d'oubli, qui est une façon de gérer son temps libre, nous allons devoir en parler. Dès lors qu'on a fait ce panorama, on peut, et un frère et une sœur peut, se dire, pour moi, la musique, non. Le cinéma, non. Le théâtre, non. Tout ça, c'est non. La lecture, oui. Et puis, il s'interdit tout ça. C'est son choix. Mais quand vous faites face à une réalité sociale, dans les opinions juridiques, vous avez quelque chose qui s'appelle et-tarjih, le choix de la préférence pour faire face à la réalité de la façon la plus lucide qui soit. Et il apparaît qu'à vouloir tout interdire, on aura des enfants qui vont nous fuir et qui vont fuir cette communauté. Et que, min bab et-tarjih, en considérant le fait du choix de l'avis juridique, il apparaît qu'il est plus intelligent et plus lucide de prendre l'avis des savants qui nous l'ont permis avec des conditions pour orienter notre communauté à le vivre avec des conditions plutôt qu'à vouloir tout interdire. Et vous allez voir vos enfants et vous-même même parfois mentir à votre propre conscience en écoutant de la musique mais en faisant comme si vous n'écoutiez pas, en regardant des films mais comme si vous ne regardiez jamais la télévision. Puis parfois, des fois, on se trahit. On dit quelque chose sur le film qu'on est censé ne pas avoir regardé. Donc ça arrive. Soyons lucides. Mais bab et-tarjih, c'est effectivement sans doute. Wallahu a'lam. Tout en respectant, vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, respectant ceux qui font le choix pour eux-mêmes de ne pas s'engager à écouter et à regarder. À la barakatillah, le respect est total. Mais il faut faire quelque chose par rapport à notre communauté et nos enfants et nous-mêmes. Il faut qu'on trouve une solution pour gérer ce temps libre, pour gérer ce divertissement, pour gérer cette culture, pour gérer cet art. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous disons, non, on ne va pas tout interdire, mais il faut trouver une solution pour respecter dans les conditions un art noble, une culture islamique noble. D'accord? C'est ça l'enjeu. Respect des deux côtés, mais c'est l'enjeu. Ça change simplement une chose. Un des frères que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de da'wah aux États-Unis, a décidé, lui, de faire en sorte que son enfant, il n'allait pas subir les assauts de la culture américaine. Donc, vous voyez le défi. Il est au cœur de l'Amérique, mais mon fils, non. Ils ne l'auront pas. Première stratégie, pas d'école. C'est moi qui vais t'éduquer avec ta maman à la maison. À la barakatillah. Alhamdulillah, le droit, c'est bien. Quelqu'un qui aime tellement son enfant devant Dieu qu'il a peur pour lui de le mettre n'importe où, il va le garder à la maison. Il fait une école, un travail à l'école, à la maison, un travail scolaire. Pas de télévision. Et un jour, où il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'école, mais il y a la communauté musulmane, il voit son enfant commencer à bricoler dans sa chambre. Quoi? Des Power Rangers. D'où vient la traîtrise? Des autres enfants musulmans, eux. De l'intérieur de la communauté, la colonisation s'est faite. Donc en l'occurrence, c'est extrêmement difficile. Avec la meilleure intention du monde, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas avoir la main mise sur tout. Et comment tu vas dire à ton enfant, t'es musulman, tu ne fais pas ça. L'autre, il est musulman, il fait ça. Mais toi, tu ne fais pas ce que l'autre musulman, il fait. C'est pas possible. Donc il faut trouver une solution qui soit une solution adulte, une solution qui est la nôtre. Donc, Mimbab et Tarjir, la deuxième opinion paraît être celle qui doit être le grand défi de la population des musulmans vivant en Europe, mais il faut qu'on soit très exigeant. Et c'est ce à quoi j'aimerais vous engager aujourd'hui, pour qu'on avance ensemble vers une culture islamique européenne. Trois choses sont à dire dès lors qu'on a dit cela. La première, c'est qu'effectivement, en matière l'art, la culture, c'est un langage. Oui, c'est une façon. Faites la différence entre les principes islamiques et la façon dont on les vit. Et la musique, l'art, la culture, c'est un vêtement, c'est une façon, c'est un mode de vie qui ne sera pas forcément le même ici qu'il est en Afrique du Nord ou qu'il est en Asie. D'accord ? C'est une langue qui a et qui répond à des contextes et qui répond à des sociétés particulières. On est obligé, il faut qu'on soit conscient de ça. Et le problème, c'est qu'on a souvent des frères et des sœurs qui supposent que l'art islamique est forcément oriental. C'est-à-dire que pour que tu aies un véritable goût islamique, faudrait que tu aimes la musique qui vient de là-bas, avec la mélodie qui vient de là-bas. Il se trouve que peut-être que tu n'aimes pas la mélodie qui vient de là-bas. Tu as les principes islamiques, mais tu as un goût d'ici. Le langage, il est d'ici. Ta culture, elle est d'ici. Et donc, il faut que l'on soit conscient. Surtout, ce n'est pas facile pour nous, des fois. Quand tu vois ton propre enfant, né dans un autre contexte que toi, vivant dans un autre contexte que toi, il a des autres goûts que toi. La musique que toi, qui peut te faire du bien, lui, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle chante comme ça? Pourquoi il chante comme ça? J'aime pas ça. Et toi, tu dis, quoi, t'aimes pas ça? C'est chez nous, ça. Ah, c'est l'islam. Mais non, c'est là-bas. L'islam ici demande à ce que tu fasses attention à ses goûts ici. C'est comme également pour certains films. Essayez de traduire quelque chose qui vous fait du bien en langue arabe à votre enfant ou à votre fille s'il ne connaît pas l'arabe ou à quelqu'un qui est d'ici. Vous, ça vous fait sourire, vous lui racontez l'histoire et tu dis, ça te fait rire ça toi. Parce que c'est pas ça, c'est pas son goût. Il y a autre chose qui le fait rire. Il y a autre chose qui le fait sourire, il y a un autre langage. Les goûts changent en fonction du lieu où l'on vit. Et ce n'est pas islamique l'Orient seulement. Ce qui est islamique, ce sont les principes. Mais on peut avoir des principes en vivant en Occident avec le goût de l'Occident. Et ton enfant, et toi-même, à des moments donnés, même vous qui êtes jeune ici, vous avez des goûts d'ici. Et il y en a certains qui commencent à en faire des complexes. Elle dit, mais si je suis musulman, je ne dois pas tellement aimer ça. Mais non, mais ça répond à quelque chose qui est en toi, tu décides pas. Tu as le droit d'être de ce vêtement culturel. Là où ta responsabilité commence, c'est si tu respectes les conditions. Donc les goûts changent, les cultures changent, et il faut faire la différence entre les principes islamiques et leurs vêtements de goût, leurs vêtements de culture. Au terme de musique, en terme de cinéma, en termes de théâtre, en termes de littérature. Bien. Donc les goûts changent, les contextes changent, et tout ceci, c'est un langage, et il faut qu'on trouve, pour nous qui vivons en Europe, le bon langage, le bon vêtement, le bon goût. Islamique, c'est-à-dire avec les conditions, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en suivant la tradition de ceux qui se disent, on peut, mais avec des conditions, on va les respecter. Mais il faut trouver quelque chose qui réponde. Pour que tu dises pas, tu ne te dises pas à toi-même, je ne peux pas regarder ça, je ne peux pas écouter ça, mais alors qu'est-ce que je vais donner à ce dont j'ai besoin, parce que la culture, c'est quelque chose dont on a aussi besoin, parce qu'on a aussi du temps libre. Et ton enfant, tu ne vas pas toute ta vie pouvoir lui interdire sans rien lui proposer. Ce qui s'appelle El Bedil, l'alternatif. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Alors, une fois qu'on a dit ceci, vous vous rendez compte de notre responsabilité les uns et les autres. C'est une énorme responsabilité que de trouver l'alternative. Quelque chose qui est une culture islamique avec le goût européen et qui s'appellerait une culture islamique européenne, respectant les principes universels, mais ayant le vêtement de nos goûts en Europe. Il faut faire un choix, il faut y travailler, c'est une grande responsabilité. En se disant simplement deux choses, je dirais trois choses. La première, c'est qu'il ne faut pas, même si ça peut être une étape de transition, se dire, bien, moi je suis musulman, j'aime bien ce qui se fait ici, alors je vais prendre par exemple une musique d'ici, une chanson d'ici, puis je vais y saupoudrer des mots islamiques ou arabes. En me disant, ben, puisqu'il y a des mots, comme le frère qui me dit une fois, il m'amène une chanson, il me met la chanson, il me tape, il me dit, écoute, il dit Alhamdoulilah. Alors, parce qu'il dit Alhamdoulilah dans la chanson, c'est islamique. Une chanson qui vous amènerait à danser pendant 3 heures, et Alhamdoulilah. C'est pas, on commence pas à jouer avec ça. Où tu mets des mots islamiques sur des choses qui sont pas, où tout entraîne vers autre chose, mais comme il y a des mots, comme ceci, t'es content. Ou alors, prendre ce qui est aujourd'hui carrément une épopée, le rap. Autant je peux comprendre que ce soit une étape de transition. Il y en a qui ont pris le rap et qui ont adouci les contours, travaillé sur la forme, et puis ils ont mis des textes qui sont des textes qui nous renvoient à une édification du cœur, ça c'est possible. Mais prendre le rap comme il est, avec tout ce que ça peut produire, comme toute la philosophie du rap derrière. La philosophie du rap, c'est pas l'élévation du cœur, vous avez bien compris. Pas ça au départ. Même si parfois ça veut toucher l'intelligence. Mais derrière cette musique-là, mettre quelques paroles islamiques en se disant « Ah, alhamdoulilah, ça c'est islamique ». Non. Ça peut par contre être, et j'ai des frères qui sont venus m'interpeller là-dessus, ils m'ont montré des choses qui sont intéressantes. Ils vivent la transition, ils essayent de trouver quelque chose. Il ne faut pas qu'on devienne, pour l'avenir, même si on peut le comprendre aujourd'hui, on vit une étape où on imite, demain il faut que l'on n'initie des choses nouvelles, quelque chose qui est vraiment ce qui va répondre à notre sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus profond que de prendre ce que d'autres font et y mettre un peu d'islam. C'est penser quelque chose de très profond de l'intérieur. Même voir ce qu'ont fait un certain nombre de nos frères aux États-Unis, réorienter cette musique en la réadaptant et en y mettant un substrat islamique qui répond au goût qu'ils ont ici, mais en même temps avec une touche qui est à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Véritablement devenir des initiateurs de quelque chose, prendre une initiative, avoir une dimension, un engagement avec une dimension créatrice, qui est une créatrice au sens de création d'un art particulier, formulation d'une dimension artistique intéressante. Bien, ça c'est la première des choses, donc pas de saupoudre. Deuxième élément, qui parfois est troublant, c'est le passage à quelque chose qui est le vedettariat que l'on connaît par ailleurs et que j'ai pu voir. Des moments donnés, j'ai été très très troublé. Même parfois, ça se passe avec des conférenciers. Mais ça se passe aussi avec des gens qui font des chants islamiques. On est passé d'un vedettariat que l'on refuse, cette espèce d'idolâtrie que l'on peut avoir de certains chanteurs. Et tout à coup, vous avez des frères, des sœurs qui vont vers quelqu'un qui chante. Je peux avoir un autographe? Tu vas faire quoi avec l'autographe? Tu vas le mettre sur ton mur? On va passer maintenant au vedettariat islamique. Comme il y a islamique, vedettariat, ça marche. Alors, il y en a même qui viennent, même pour des conférenciers, un autographe. C'est quoi un autographe? Une signature, tu veux une signature? Que je demande à Dieu de te protéger, de t'aimer, de t'accompagner. Je veux bien, mon frère. Et c'est ce que tu dois demander à n'importe quel être sur la terre. Mais une signature de quelqu'un que tu es en train de... Tu vas la mettre sur ton bureau, tu la regardes? Ça va pas. C'est pas. On ne peut pas changer les formes. Il faut que ce soit... Ça, c'est grave. C'est grave parce que ce n'est pas du tout la culture que l'on doit avoir par rapport à nos frères et nos sœurs. Puis il y a une autre chose. Et là, je vous demande d'être très, très attentif parce que vraiment ça, c'est très profond. Vous êtes dans une société qui a fait de la nuit quelque chose de particulier en matière de divertissement. Vous n'avez jamais remarqué ces soirées, cette façon de moins se voir pour mieux s'oublier, hein? Moins de lumière, beaucoup de bruit et perds ta tête. C'est ça la réalité. Du bruit à ne plus t'entendre, une lumière à ne plus te voir, et toi tu as l'impression que parce que tu ne te vois plus et que tu vois plus l'autre, tu, je prends la formule comme ça, tu t'éclates. Mais c'est bien ça. Tu perds ta physionomie humaine parce que tu ne vois plus et tu n'entends plus. Mais en islam, les fêtes, elles se passent comment? Elles commencent par quoi? Même dans le divertissement, tu commences le matin très tôt par une prière et le moment de joie et de bien-être, tu vois l'autre. Tu es dans la journée, tu es dans... Il faut que ce soit dans la journée. On n'a pas de fête pour se perdre. On a des fêtes pour se reposer. Non pas pour ne plus se voir, mais mieux se reposer ensemble. Nous, on a une fête du jour. On n'a pas un divertissement de l'ombre et de l'obscurité. Et parfois, vous voyez que dans des colloques ou dans des rencontres, t'as quoi, à 11h le soir, on va faire comme eux, hein? Mais là, maintenant, ça va être des chants islamiques. Attention, mon frère. Faites pas n'importe quoi. Il fait nuit, c'est 11h du soir, et on met une chanson et des chansons islamiques. Et puis, tu vois tout à coup que les gens, étonnamment, même quand c'est islamique, ils se laissent aller à des comportements qui sont pas... Mais comme c'est islamique, laisse mon frère. Non. Non. Non, parce que tu commets une erreur, c'est que dans la gestion du jour et de la nuit, tu t'es trompé. Quand tu fais un colloque et quand tu es entre musulmans, la dernière chose de la nuit, c'est que tu perds ta tête. Mais non. La dernière chose que tu dois entendre avant d'aller te coucher, c'est quelque chose qui élève ton cœur. C'est quelque chose qui te fait méditer. C'est quelque chose qui est de la plus profonde spiritualité. Les chants, le divertissement, le bien-être, tu vas le mettre l'après-midi, tu vas le mettre pendant la journée. On est bien, on est ensemble, on écoute quelque chose, ça nous repose. Mais avant de se coucher, on ne perd pas sa tête en islam. On gagne son cœur. On retrouve son cœur. Et on ne va pas faire comme eux simplement pour se donner l'impression qu'on suit la même culture. Et il faut bien réfléchir à ça. La gestion du jour et de la nuit, c'est fondamental en islam. Comme c'est fondamental dans la culture. Quand, pour te divertir, on te dit « éteins la lumière et fais du bruit », on ne t'appelle pas à la dignité. On ne t'appelle pas à la dignité, mais en islam, on te dit « repose ton cœur pour être plus digne et mieux dans la prière et mieux avec Dieu ». C'est ça que tu veux. Donc ne fais pas comme eux en ajoutant « islamique » pour avoir l'impression que tu fais bien. Et je pense que dans la culture islamique européenne, la gestion du jour et de la nuit est fondamentale. Ce petit travail de substitution et de saupoudrage me paraît être très dangereux. Et ça m'amène à ma dernière partie et à ma conclusion en même temps par rapport à ceci, par rapport à cette question, c'est qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour aller vers une culture islamique européenne? Et avec tout ce que je viens de dire, vous voyez le degré de responsabilité qui est le nôtre. Alors, j'aimerais mettre en évidence deux choses. La première des choses, c'est de rappeler à chacun et à chacune ici, que vous n'êtes pas dans le désert. Oui, vous n'êtes pas dans le désert, il n'y a pas de culture et vous devez tout faire. Et ça, j'aimerais aussi que vous soyez conscients que vous êtes, pour la plupart d'entre vous ici, francophones, n'est-ce pas? Que vous avez un cinéma, que vous avez du théâtre, que vous avez des chansons qui, ici en Europe, et en particulier dans la langue francophone, sont des choses qui ne sont pas directement... Il n'y a pas le mot « islam » dedans. Ce n'est pas islamique au sens où ce n'est pas un musulman qui l'a fait, mais le contenu de cette culture est très édifiant. Il y a des choses dans la littérature française, quand vous les lisez, ça vous rapproche de votre foi. Tout ce qu'a fait Victor Hugo n'est pas acheté à la poubelle. Tout ce qu'a fait Rousseau n'est pas à jeter. Il faut que l'on ne perde dans cette communauté une sélection. Prends les livres qui sont intéressants. Prends les livres et la littérature et fais que tu lises. Lis les auteurs français. Et on fera une sélection dans ces auteurs. Il faut de ce point de vue-là, effectivement, opérer par sélection. Je suis très très étonné de gens qui proposent à la communauté musulmane le fait de ne plus lire de littérature. Mais non, la littérature française est l'une des littératures les plus riches au monde. Tout n'est pas à jeter dans cette littérature. Il faut lire des choses qui sont pour nous, qui sont complètement en accord avec une éthique, avec une édification de l'intelligence. Donc, en fait, il faut opérer par sélection. Et cette communauté-là doit opérer par sélection, c'est-à-dire de faire le choix d'un certain nombre de... Et il y en a beaucoup, beaucoup d'auteurs aujourd'hui, que ce soit dans le théâtre. Quand vous allez, quand vous vous arrêtez vers des auteurs russes, Tchekhov par exemple, en matière de théâtre, mais ce sont des grands, ce sont des êtres qui ont apporté quelque chose. Et quand vous les lisez, vous n'êtes pas en train de trahir l'islam. Vous n'êtes pas loin de l'islam parce que vous reposez votre esprit à voir quelqu'un qui travaille sur la psychologie. Un auteur comme Dostoïevski, que je recommande à tous mes étudiants, c'est un auteur qui, de ce point de vue-là, a un travail sur la spiritualité, sur la psychologie de l'intérieur. Il vous apprend l'homme. Et comme il vous apprend l'homme et la psychologie humaine à la psychologie de l'homme occidental et de l'homme russe, vous commencez à édifier votre intelligence. Il ne faut pas tout jeter. Il faut sélectionner une littérature qui soit une littérature édifiante. Tout n'est pas bon, mais tout n'est pas est loin d'être mauvais. Et ça, il faut le faire en littérature comme il faut le faire au cinéma. Dans le cinéma, il y a des choses qui sont, il y a des films qui sont édifiants. Il y a un film dont je me souviendrai toute ma vie, de mon père, rahimallah, qui m'a dit, celui-ci, il faut que tu le regardes. C'était un film qui se passe quelque chose d'assez impressionnant. Et il y a plein de films qui sont comme ceci, qui sont intéressants. Ça s'appelle 12 hommes en colère. C'est un film où tout se passe dans une chambre et vous avez 11 personnes qui sont persuadées qu'un est coupable et vous avez pendant 2 heures l'articulation d'une pensée qui met le doute dans la pensée des autres. Je vous promets que vous apprenez énormément. Et ça, ce sont des films qui sont... C'est édifiant. Je me souviendrai toute ma vie de cela. Et il y en a certains, la seule chose qui les intéresse, le cinéma. C'est halal ou c'est haram? Alors la meilleure réponse pour moi, c'est celle d'un cheikh au XXe siècle, à qui on voulait le piéger. Il dit, le cinéma, c'est halal ou c'est haram? Oui. Dis-nous, quoi. Peu. Et lui, il les a regardés, il les a renvoyés à ce à quoi je vous appelle l'al-tarjih. Il leur a dit, et cinéma halal? Halal. Et cinéma haram? Haram. Travaille avec ta tête. Et c'est ça. Le cinéma licite, il est licite. Et le cinéma qui n'est pas licite, ben, tu sais qu'il ne faut pas le regarder. Ne mens pas à ton cœur et un peu de conscience. Travaille. T'as envie d'avoir des choix clés en main. Ça, tu ne fais pas, ça, tu fais. Mais travaille. Sélectionne pour toi et pour ta famille. En matière de cinéma, en matière de chanson. Ma fille, hafizah Allah, elle vient vers moi un jour et... Elle était très émue par une chanson. Je ne vais pas faire de la publicité pour des chanteurs, ça ne m'intéresse pas, mais il y a des choses, quand vous la voyez émue et que vous la voyez émue dans quelque chose qui est profondément, mais oui, quelque chose qui réveille en elle des émotions qui sont profondément islamiques. Elle a écouté une chanson, vous allez tout de suite savoir de qui il s'agit. C'est un homme qui parle à sa fille et qui lui dit, c'était bien pour le papa d'entendre ça quand même. Elle vient lui, et la chanson... Elle met en évidence le fait qu'il l'aimait, qu'il l'aime et qu'il l'aimera. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Cette chanson, totalement construite sur l'émotion du lien, qui sont des chanteurs, il y a des chanteurs qui sont de haute qualité, qui ont des paroles qui vous élèvent. Il n'y a pas islam tous les trois mots, c'est vrai. Mais tout réveille en toi une attitude de dignité. Là, je parlais effectivement de cette chanson de Cabrel. Il y a des chansons, il ne faut pas pour que ce soit islamique, qu'il y ait le terme islamique, chant islamique, parole islamique. Comment tu vas faire, toi, des paroles islamiques? Tu me dis comment tu fais? Tu mets chaque fois, Alhamdoulilah, chaque 3 vers. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est de la gestion culturelle à la petite semaine. Vous savez quand est-ce qu'on fait ça? C'est quand on n'est pas sûr de soi. Quand on est un peu complexé, alors on place des mots, puis on se dit, voilà, il faut que... C'est comme parfois quand on fait une conférence. Et certains dans les publics attendent ça. Une conférence est islamique à partir du moment où il y a tant de versets qui ont été cités, tant de hadiths. Mais non! Vous avez des personnes, ils ne vous ont pas dit un mot sur une référence islamique, mais tout leur raisonnement est islamique. Mais il faut que tu travailles avec ta tête. Il faut que tu ailles chercher dans les choses. Bien, dans cette culture, il faut que nous travaillions, premier domaine, par sélection. Par sélection en matière de littérature, en matière de cinéma, en matière de livres, il faut se constituer pour soi, pour ses enfants, pour cette communauté, une bibliothèque. Et cette bibliothèque, quand vous allez dans les bibliothèques islamiques et que vous voyez que des livres l'islam ou des contes islamiques. C'est pas que ça. La bibliothèque, elle doit être beaucoup plus grande que ça. Elle doit donner un choix énorme de livres, énorme de... mais qui sont des choses qui correspondent à notre éthique. Et il y en a beaucoup. Première dimension, donc, la sélection. Deuxième dimension, et c'est une dimension sur laquelle il faut beaucoup travailler, ce sont les compétences. Maintenant, dans ce que nous avons à produire de nouveau, qui nous correspond. Alors, ces compétences, c'est effectivement, il y a plein ici de frères et de sœurs à qui on laisse entendre que pour être au service de la communauté, il faut travailler dans une association islamique, il faut faire de la solidarité, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est bien, alhamdoulilah. Mais il y en a parmi vous qui ont de la plume. Il y en a parmi vous qui ont des talents. Il y en a parmi vous, ils ont des... Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné quelque chose, comme tout à coup un jeune comme ceci, il a le trait qui lui permet dans la calligraphie, la plume qui lui permet dans la littérature. Et j'en vois, moi je reçois des manuscrits de jeunes, on sent qu'il y a quelque chose. Eh bien, c'est quelque chose que tu dois donner à ta communauté. Écris, si Allah subhanahu wa ta'ala a donné, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le don d'écrire. Produis des paroles de chansons, si tu sais les écrire, si Allah t'a donné ce talent, vas-y, dans la chanson. Il y a un frère, par exemple, il est en train de faire un court-métrage, il m'a montré les premiers éléments, c'est impressionnant, il a un talent. On va lui dire, non, le service de ta communauté, c'est... Mais non, ça, c'est tu vas servir ta communauté. Donc, de ce point de vue-là, il faut travailler ses talents et il faut travailler ses compétences. Ça ne doit pas être un engagement à la petite semaine. Oui. Et puis surtout, il faut qu'on travaille aussi au niveau des âges. Il y a des choses qui doivent être faites pour les enfants. Nous sommes très loin, hein, la culture française islamique, la culture francophone islamique. En Angleterre, les livres qui sont le plus vendus, ce sont des petits livrets d'édification où on ne parle pas d'islam tout le temps, mais qui sont faits pour les enfants et ils poussent les enfants à lire. Il faut des livres pour des enfants. Tu lui donnes quelque chose à ton enfant en français, puis qu'il lise et puis que ça l'édifie. Cette littérature-là, elle manque. Donc, il faut pour les enfants, il faut pour les adolescents. Et puis, surtout une chose, ne demande pas à un adolescent d'écouter des choses pour les enfants. Et ça, nous, on se dit, ah ben, il y a quelque chose qui est islamique là, tu donnes, ça ne correspond pas à son âge. T'aimerais à 14 ans qu'il aime des choses qui sont faites pour des gens de 10 ans. Mais ce n'est pas possible, respecte ton enfant. Donc en l'occurrence, il faut 14 ans, 16 ans, il faut des... Et puis là, il ne faut pas qu'on s'infantilise. Des paroles du style « Je suis musulman, je suis très content, tout le temps. » Tu ne fais pas une culture islamique comme ça. Il faut à un moment donné, approfondir. Puis en plus, ce n'est pas vrai. Tu ne le vis pas comme ça. Donc il faut plus de psychologie, plus de finesse. Donc les âges. Et puis, il faut aussi quelque chose pour les adultes, donc la compétence. Il faut être exigeant aussi dans notre façon de regarder cette culture, savoir être critique, mais critique dans le sens positif. Et il faut qu'on se pousse à être beaucoup plus productif en la matière, en demandant aux frères et aux sœurs qui ont du talent, engagez-vous à y penser, en étant critique et en essayant de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les différents âges, en constituant des bibliothèques, et puis en se respectant dans ce choix-là. Quel est l'objectif? C'est de produire, incha'Allah, pour la prochaine décennie, une culture islamique européenne francophone. Les Arabes, dans leur langue, en ont une. Les anglophones, aujourd'hui, en ont une beaucoup plus importante que les francophones. Si vous allez en Angleterre, vous allez voir des livres. Aux États-Unis, ils ont un catalogue de production islamique. Il y a plus de 400 produits. On n'a pas ceci. J'étais ce matin avec un frère qui vient d'Angleterre. On va commencer maintenant à faire un travail de traduction. Ils sont en train de sortir les premiers dessins animés qui sont de nature à respecter l'éthique islamique. Ils les font en 6 langues. Et ça commence. Et il faut maintenant qu'il y ait des frères qui s'engagent là-dedans. Il faut qu'on on va, la prochaine fois, lors du prochain cours, on vous parlera d'un concours qui est lancé dans toute la francophonie pour que des frères qui savent écrire, écrivent, qui savent écrire des paroles, le fassent, qui ont envie de faire du théâtre, le fassent. Il faut maintenant que nous pensions à l'avenir. Pour nous, parce qu'on a besoin de cette culture, mais vraiment, je vous demande d'y penser avec la plus profonde des préoccupations. pour vos enfants. Parce que si vous savez que vous n'allez pas quitter, que vous êtes ici chez vous, il va bien falloir que vous répondiez à leur coup. Il va bien falloir que vous leur disiez, ben écoute ça, parce que ça, ça te permet de rester et d'édifier ton intelligence. Et si nous ne faisons pas ceci, et si nous continuons à avoir un discours islamique uniquement halal, haram, et qu'il n'y a absolument rien qui permette à nos jeunes et à notre jeunesse à l'avenir à édifier sa spiritualité et sa conscience, nous allons nous tromper et nous n'allons pas répondre. Je vous demande véritablement, déjà dans vos familles respectives, de faire un travail de sélection, mais aussi d'encourager tous ceux que vous voyez avoir du talent dans cette voie-là, et de faire une chose aussi par rapport à vos enfants. Si vous avez décidé, s'il y a des gens qui ne veulent pas de musique, qui ne veulent pas, respectez-les. Et vous, habituez-vous à une chose. L'une des grandeurs et des dignités de l'islam, c'est celle-ci. Fais-le, mais apprends le sens de la limite. Tu peux voir des choses, mais respecte la limite. Tu peux écouter des choses, mais respecte la limite. Et pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent, ayez cette culture de la dignité et cette culture, cette exigence de la limite, inshallah, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala que vos dernières paroles soient devant lui et devant les hommes, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, salam alaykum.